Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
Il est midi 7, vous êtes sur RMC et on va démarrer Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et l'actualité, c'est ce chèque alimentaire de 100 euros et plus 50 euros par enfant qui sera versé à la rentrée sur le compte bancaire de 9 millions de Français. Mais à quoi va vraiment servir ce chèque, Rémi ? À mieux se nourrir ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ressemble à tout sauf à un chèque alimentaire. D'abord, un chèque, pourquoi ? Parce que ce ne sera pas un chèque, ce sera un virement. Et puis, il n'y aura pas, en fait, de fléchage sur quoi et à quoi destiner cet argent. Tu l'as dit, ce sera 100 euros par foyer auxquels s'ajouteront 50 euros par enfant à charge. Directement donc versé sur le compte en banque des ménages visés. Ce sera en septembre. En bénéficieront les allocataires du revenu de solidarité active, le RSA, de l'allocation dite handicapée, du minimum vieillesse ou encore de l'aide personnalisée au logement, l'APL. 9 millions de personnes au total. C'est davantage que la fourchette qui avait auparavant circulé et qui estimait le nombre de bénéficiaires potentiels entre 3 et 6 millions. Coût pour l'État estimé à 1 milliard d'euros. L'idée du chèque alimentaire en tant que tel n'est toutefois pas totalement abandonné. Le dispositif ciblé permettant à tous les Français là d'accéder à un produit alimentaire de qualité made in France et bio, ce qui était le cas à l'origine, présenté comme ça, c'est toujours à l'étude. Très difficile à définir. Les contours de cette mesure n'ont pas encore été arrêtés.
Alors, est-ce que ce chèque alimentaire, est-ce que c'est l'aide de trop ? Je vais commencer avec vous, Robert Sebag.
D'abord, vous avez dit 1 milliard pour 9 millions de personnes. Vous oubliez que c'est 50 euros en plus par enfant, donc c'est beaucoup plus qu'un milliard. Et donc là, aujourd'hui, on est effectivement sur un besoin évident de personnes. Il y a une demande de pouvoir d'achat. D'un autre côté, si vous voulez, il y a les taux d'intérêt qui remontent et le coût de la dette, c'est 2% alors qu'on empruntait, si vous voulez, à quasiment taux négatif. Et donc, il y a une sorte de cercle vicieux qui est en train de s'installer. Ça, c'est le premier point. Il y a une souffrance d'un côté. Alors bon, il y a une orientation. Par contre, effectivement, est-ce qu'il va être orienté ? Parce que si vraiment il est alimentaire, on sait qu'il y a des difficultés alimentaires, en tous les cas, en quantité et en qualité, on peut l'accepter. Par contre, si c'est donné comme ça, vous ne savez pas du tout quel va être le fléchage de cet argent. Si c'est pour s'acheter un portable, si c'est s'acheter un portable ou s'acheter autre chose, une nouvelle télévision.
On fait ces débats-là, Robert, à chaque
fois. Oui, non, mais
pourquoi tu l'appelles chèque alimentaire ?
On ne va pas aller enquêter dans les foyers pour savoir comment ils dépensent l'argent.
Non, mais on pourrait donner, au lieu de faire un virement systématique qui peut être utilisé n'importe comment, donner quelque chose de spécifique qui ne peut être valable que dans des supermarchés, uniquement sur des produits alimentaires.
Tous les produits sont vendus désormais. Si tu vas aujourd'hui dans un grand Carrefour, un grand Auchan, on te vend également du téléphone ou de la tablette.
Non, parce que si t'as ta carte ticket restaurant, par exemple, tu vas au supermarché. Ben, avec ta carte ticket restaurant, je peux te dire que tu peux pas acheter d'alcool, tu peux pas acheter un réveil, tu peux pas acheter des cotons-tiges.
Pardonne-moi, mais
tu l'appelles pas chèque alimentaire, c'est pas un chèque alimentaire.
Si tu décides aujourd'hui d'aider les gens. D'ailleurs, par parenthèse, j'aimerais quand même dire que la France est toujours le pays où il y a le plus d'aide, mais on arrive quand même à faire des débats pour savoir si c'est bien d'aider. Moi, déjà, j'aimerais m'adresser aux gens les plus démunis qui vont recevoir ces aides. Eux, je ne crois pas qu'ils vont faire des débats. Ils vont prendre l'argent parce que ça va leur faire du bien.
Mais personne ne
peut dire
que la
situation économique est terrible en ce moment.
D'accord, Daniel, ne l'appelle pas chèque alimentaire.
Mais arrêtez de faire des débats sémantiques sur comment faut l'appeler ou comment faut pas l'appeler. On s'est posé la question de savoir s'il fallait flécher, pas flécher. On se rend compte que c'est pas possible. Parce que
comment
tu vas aller contrôler que la personne achète réellement à manger? Et pardonne-moi.
Tu donnes des bons.
Et pardonne-moi, mais il y en a des gens, j'imagine, pour qui, acheter à manger, c'est moins important qu'acheter autre chose.
Ouais, ok.
Et alors, si ça les intéresse pas d'acheter à manger de la qualité.
Tu l'appelles pas chèque alimentaire.
Si ça les intéresse pas d'acheter de la qualité.
Non, mais là, on te dit, c'est pour acheter du bio. Est-ce que tu sais très bien que ça servira pas à acheter du bio.
Exactement.
Et on va pas jeter la pierre aux gens, il y a aucun problème.
Tu vas pas pouvoir le contrôler.
Non, mais dans ces cas-là, t'appelles pas ça chèque alimentaire. Et tu dis, l'État dit.
Mais il y a que ça qui te gêne, toi. C'est l'appellation. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça?
Oui, ça me gêne, enfin. Mais parce que tu mens.
Non, mais.
Donc moi, ça me gêne. Bah oui, ça me gêne, Daniel.
Mais parce que tu estimes, au départ, que ça va servir.
Je crois que les gens qui n'arrivent pas à se nourrir, ils vont aller acheter du bio avec ça.
On va dire que dans un premier temps, l'intention, c'est de viser le caddie.
Oui.
Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça chèque alimentaire.
Oui.
Et que ça garde cette appellation, moi, ça ne me choque pas, parce que c'est une incitation. Puisque ce sont les produits qui augmentent et on va dire que c'est pour les gens démunis, la première nécessité de remplir le caddie, eh bien voilà, on leur donne de l'argent pour qu'ils le remplissent. Si cet argent, ils vont l'utiliser pour faire autre chose, et là,
mais ça peut être pour des carburants, il y a pas de problème.
Je t'accorde effectivement que le côté bio et tout, c'est très accessoire.
Bah, bien sûr.
Parce que le bio, c'est plus un truc de
bobo.
Je crois
que tu vas aller acheter ton kilo de cerises à 10 euros là.
Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une bonne chose. Après, dans les supermarchés, tu sais très bien que c'est incontrôlable.
Non, mais Daniel,
c'est contrôlable.
Daniel, alors comment Daniel. Tu vas contrôler? Explique-moi.
Non, mais attends, où tu dis, les Français ont besoin d'argent. Ce que je comprends parfaitement, on reçoit beaucoup d'appels dans cette émission de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais dans ces cas-là, tu dis la vérité. Tu dis, Bruno Le Maire, il doit dire, ben voilà, il y a plein de Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est hyper compliqué. La rentrée, elle sera terrible. Donc, on leur donne 100 euros plus 50 euros par enfant. Aucun souci. Mais quand tu dis, les Français se nourrissent mal, il faut qu'ils mangent des légumes, il faut qu'ils mangent du bio, alors on va leur donner un chèque alimentaire. Mais c'est pas ça. Donc moi, ça me gêne, mais je suis désolée.
Daniel,
parce que t'as quand même un déficit.
Daniel, il y a une réalité qui est le taux d'inflation, qui est un peu plus de 5 aujourd'hui, qui risque d'être quasiment à 10.
Ça sera à 7 en septembre.
En 7, ou peut-être plus, si tu veux. Et il y a effectivement des gens qui en souffrent. Comme il n'y a pas, si tu veux, une réadaptation des salaire par rapport à l'inflation, on peut dire voilà, vous avez un chèque, on sait que tout augmente, vous en faites ce que vous voulez.
Bah donc c'est pour ça que je trouve ça très bien.
Bah tu l'appelles un chèque inflation.
Mais dans les autres pays, les gouvernements ne font pas ça, forcément.
Je veux dire, non, on est d'accord, mais on ne l'appelle pas chèque alimentaire.
C'est... Oh, alors, je voudrais avoir l'avis de Julien Damon. Julien Damon, quand même, sociologue, prof à HEC, et vous avez forcément un avis pertinent sur la question, Julien.
Mais comme mes deux camarades. Bon, la première chose, c'est que, à mon sens, plus personne n'y comprend rien. Vous avez eu, depuis le début de la
crise
Covid...
Déjà.
Oui,
alors,
ça, c'est génial. Merci. Merci pour nous.
Mais c'est fondamental. C'est-à-dire que depuis la crise Covid, plus personne ne voit où on va avec la de ces aides ponctuelles. Il y a eu un chèque énergie, il y a eu un chèque inflation, il y a eu les aides exceptionnelles, trois tournées pendant les deux crises Covid, c'est-à-dire les deux grands confinements. Donc, au bout d'un temps, on a ce type de débat. Est-ce que c'est un chèque? Est-ce que c'est une aide? Est-ce que c'est versé par chèque? Est-ce que c'est versé sur un compte en banque? L'essentiel, c'est que ce sont des versements sur des comptes en banque par les caisses de sécurité sociale, les CAF et les caisses de MSA et Pôle emploi. Le deuxième sujet, c'est un sujet capital. C'est faut-il en effet aller vers des prestations plus ciblées, plus fléchées dans certains produits. C'est tout à fait possible. Aux États-Unis, un des premiers programmes sociaux, ça s'appelle les bons alimentaires, les food stamps. Et c'est comme les tickets restaurants, sauf que ce sont des tickets alimentation ou des tickets que l'on peut dire.
Donc c'est faisable, on est d'accord.
Oui,
bien sûr.
Et d'ailleurs, la France dispose pour cela d'une des plus grandes boîtes qui sait gérer ça, qui s'appelle Edenred. Si vous avez vos tickets resto, votre
boîte,
ils savent gérer ça de façon dématérialisée, très futée. Et ce débat est un débat récurrent depuis 1974, pour être précis, lorsqu'on a créé l'allocation de rentrée scolaire, la célèbre ARS, débat que l'on a à tous les moments de la rentrée, à toutes les rentrées scolaires. Est-ce qu'il faut verser de l'argent aux gens dont ils font ils veulent? Et pourquoi
c'est
pas?
C'est le débat de septembre.
Et Daniel, c'est le débat d'août. C'est en août. En août, si elle est versée en août. Sauf que le débat maintenant.
Non, mais
est
vous
récurrent.
Savez quand même qu'à chaque fois on fait ce débat, mais que la conclusion est toujours la même. On verse l'argent et puis après c'est la responsabilité de chacun de dépenser l'argent comme ils ont envie de le dépenser et qu'on va pas aller forcer les gens à acheter un steak haché de bonne qualité s'ils ont envie d'en manger un de moindre qualité pour acheter autre chose à côté à leurs enfants pour leur faire plaisir en achetant un cartable. Moi je trouve que aller contrôler le besoin des gens et la façon dont ils vont dépenser de l'argent,
Je n'aime pas cette idée. Sauf que c'est l'État. C'est l'État. C'est pas ton salaire, c'est pas de l'argent. C'est l'argent de l'État. Donc tu peux avoir
les allocs. Est-ce que ça va vraiment après dans une dépense concernant l'enfant ou pas?
C'est vrai que de toutes les façons, il faut une bureaucratie intrusive pour le gérer. Mais le débat le plus important, à mon avis, c'est pas celui-là. C'est quand Estelle dit, c'est pas du salaire. Voilà, c'est le gros sujet. Si on veut lutter contre l'inflation, le meilleur moyen, c'est pas de distribuer un peu de pognon de dingue ou de faire une pluie de chèques. C'est la question de l'indexation des salaires, parce que c'est un élément capital, mais aussi des prestations sociales.
Les salaires des fonctionnaires vont être augmentés.
Oui,
les salaires. Donc après, dans le privé, ça ne va pas être de l'initiative de l'État. Il va falloir que les entreprises privées le fassent.
Non, mais je vous rappelle quand même que la loi, elle n'est pas votée. On n'est pas à l'abri d'un certain nombre d'amendements, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de majorité. Ah, ben si.
Ah non, la NUP, tout le monde va dire oui.
Oui, mais ça dépend. Il peut y avoir des amendements disant ça ne s'appellera pas chèque alimentaire. Il peut y avoir un certain nombre. Peut-être l'augmenter.
Quand ça aura changé de nom, alors là, on sera vraiment super content, Robert. Vraiment.
Je dis simplement que c'est législatif.
On s'ennuie à ces débats sur ces aides ponctuelles. C'est dommage que le gouvernement. Non, mais on s'amuse bien à en parler et puis on s'écharpe, c'est sympathique. Mais le débat le plus important, c'est de de réformer le système des prestations, de réformer les allocations familiales, de réformer les allocations logement, de mieux les indexer certainement pour lutter contre l'inflation et de cesser avec cette pluie de chèques où véritablement à laquelle véritablement plus personne ne comprend rien.
Alors on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent sur ce chèque alimentaire. On a Mohamed, tiens, qui nous appelle d'Asnières-sur-Seine. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour. Je vous appelle d'Asnières-sur-Seine effectivement et là j'ai écouté, c'est vrai que je rejoins beaucoup Daniel Riolo, comme souvent d'ailleurs. Simplement parce que il faut par moment. je le suis à l'after foot et je le suis autant, donc
c'est pas vrai. Vous avez raison.
Ce qu'il faut toujours, ce qu'on oublie, je pense, dans tous ces débats, c'est la position des personnes qui sont les récipiendaires de ces différentes aides. Psychologiquement, on est en train de créer progressivement dans l'imaginaire collectif de ces personnes en difficulté un double sentiment. Le premier, c'est l'humiliation, et ça, c'est dit de façon très simple, venir quémander, alors d'appeler ça un chèque alimentaire, il faut quand même savoir qu'on a un certain nombre de personnes qui, par fierté, n'iront pas le chercher.
Voilà. Ça va être viré.
Ça va être viré directement. Il y a un besoin de demander.
Non, non, mais je veux dire qui réellement, là, on en discute avec des personnes quand même, hein, qui vont être capables de le renvoyer, parce que simplement, là, aujourd'hui, les gens, dans leur majorité, au-delà de la fatigue morale qui est née du Covid, ont quand même ce petit sentiment de fierté qui est en train de les pousser à dire mais qu'est-ce que c'est tous les jours un nouveau chèque. Et on est en train de créer en plus, à côté de ça, des spécialistes de ces aides. Alors on a des intervenants qui viennent et qui vont orienter les gens vers les différentes aides. Alors un jour c'est le chèque carburant et puis il faut y comprendre quelque chose. Moi je connais des gens qui ont reçu le dernier chèque alors que n'y prétendaient pas et ils pensaient pas du tout y prétendre. Ils sont vus arriver 100 euros sur leur compte. Donc globalement j'ai envie de dire que là on a un problème dans ce qu'on est en train de créer dans la société et c'est ce qui me dérange le plus au-delà de ce de tout ça. Effectivement, l'aide de l'État, l'État qui aide les plus démunis, les plus désorés,
mais ça, c'est normal.
C'est quelque chose d'évident, complètement évident. Et pourquoi ne pas revenir à quelque chose qui était très simple, qui était de cibler, qui était d'identifier au travers des différents...
Ah ben là, c'est ciblé, Mohamed.
Non, c'est ciblé, là, par rapport à une simple
question. C'est pour les plus pauvres, donc c'est ciblé.
Oui, mais les plus pauvres, encore une fois, je vais vous donner des exemples de gens. Être plus pauvre à Paris n'est pas la même chose que d'être plus pauvre à Toulouse, par exemple, ou à Bayonne.
Je suis d'accord, voilà.
Donc, si vous voulez, le plus pauvre, c'est Parisien qui va recevoir cette somme, pour lui, l'impact ne sera pas le même que celui qui habite Bayonne. Je dis Bayonne au hasard.
Oui, bien sûr.
Vous voulez, voilà, on est sur des choses qui sont mécaniques, qui sont mathématiques, et on ne s'appuie toujours pas sur des spécialistes de terrain qui sont là au quotidien en train d'aider. Alors je prends les associations qui font des maraudes, les Restos du Cœur. Alors il faut savoir que tous ces gens-là, en plus, qui interviennent, les gens ne vont pas chez eux comme ça. On ne se pointe pas au Restos du Cœur, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
On passe
d'abord par une assistante sociale qui identifie bien qu'on a des besoins, etc.
De toute façon, c'est compliqué, même. On sait que c'est pas anodin d'aller pointer au Restos du Cœur. Non, mais vous avez raison, Mohamed. Après, ces associations, de toute façon, elles sont débordées. Il n'y a jamais eu autant de monde. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous au 32-16, Mohamed. On a Yannick qui nous appelle de Perpignan également. Bonjour, Yannick.
Bonjour.
Yannick, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, ce chèque alimentaire ?
Oui, en soi, c'est une bonne chose, sauf qu'il est mal ciblé. Mal ciblé pour moi. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours les mêmes qui vont y avoir droit.
Si vous êtes milliardaire, vous n'y aurez pas droit.
Moi, c'est simple, je vais vous expliquer mon cas. J'ai un enfant qui a 15 ans et un enfant qui a 18 ans, d'accord ? J'ai 1900 euros de salaire avec les primes. Moi, tu m'assommes dans la maçonnerie, à la convention collective, on a 200 euros à peu près par mois de prime panier. D'accord? Donc, en gros, j'ai 1700 euros de salaire net.
D'accord.
850 euros de loyer. J'ai pas droit à l'APL. Déjà, il y a six mois, je fais ma déclaration de prime d'activité. D'accord?
D'accord.
Ma femme était au chômage. Je déclarais trop pour pouvoir y toucher. Pas de problème. Il y a trois mois, je l'ai fait. Je déclare pas assez. Ma femme a plus droit au chômage. Je déclare pas assez pour pouvoir y toucher.
Ça c'est toujours la difficulté pour les gens qui sont à la frontière. C'est exactement la même chose pour le SMIC. Quand on dit il faut augmenter le SMIC, ceux qui sont même 50 balles au-dessus, et à chaque fois ça se bouscule. C'est les wagonnets, quoi.
C'est l'effet de seuil. Mais effectivement, Yannick, il a pas beaucoup. Sa femme est au chômage. Voilà. Il a deux enfants, 15 et 18 ans. Ça coûte cher. Donc il a pas le droit. Et vous avez pas le droit à ce chèque alimentaire, là, Yannick ?
Non, j'ai pas d'APL. Et moi, je vais vous raconter une anecdote il y a quelques années. Il y a quelques années, j'étais auto-entrepreneur, d'accord?
D'accord.
Auto-entrepreneur et en auto-entreprise, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais il y a quelques années, on avait le droit de cumuler le chômage et l'auto-entreprise si on ne déclarait pas beaucoup. Donc, mon entreprise ne marchait pas très bien. Donc, j'ai utilisé tout mon chômage.
D'accord.
Bon, je vais continuer un certain temps mon auto-entreprise. Je reçois une lettre de la CAF qui me dit « Vous avez droit à 183 euros de chômage ». Quoi qu'il arrive, de RSA, quoi qu'il arrive, que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, c'est tout ce que vous avez droit. La CAF, et je leur dis, mais attendez, excusez-moi. Quand je travaille, du RSA, j'en ai pas besoin. D'accord? Quand je travaille, j'en ai pas besoin, je me fais beaucoup plus.
Ouais.
Mais quand je travaille pas, je fais comment pour vivre? À cette époque, j'avais 3 enfants. Fais comment pour vivre? Ils m'ont dit, vous savez quoi? Il faut arrêter votre entreprise et vous mettre au RSA complet. Arrêtez de vous mettre au RSA actif. Faut vous mettre au RSA complet. Je dis, mais vous foutez de ma gueule.
Les aides se télescopent avec le travail.
Ouais, mais bien sûr. Non, mais t'as raison.
Vous portez les gens à pas travailler. Ce matin, j'ai vu sur 20 minutes, il y a un département, je sais pas lequel.
Ouais.
Il met en place une prime de 500 euros pour les moins de 25 ans. Mais
oui.
C'est complètement les mettre hors travail.
Oui, on avait fait ce sujet, c'est la Haute-Garonne qui avait mis ça en place en expérience test. Mais merci beaucoup, Yannick, c'est très intéressant ce que vous dites, mais on est encore sur le mauvais fléchage parfois des aides et c'est vrai qu'on le relève beaucoup.
Mais c'est pas tant ça, c'est qu'en fait on voit pas réellement de solution. C'est là qu'on voit que le système des aides a priori est évidemment toujours une bonne chose, mais ce que ça rentre sans arrêt en conflit avec d'autres problématiques.
Oui, sauf que là, Yannick, il travaille, il n'arrive pas à joindre les deux bouts et lui, il n'a rien.
C'est exactement le même raisonnement quand on entend les gens dire que finalement, retourner travailler en faisant 2-3 calculs, ils s'aperçoivent que rester à la maison avec les aides, c'est pratiquement la même chose.
Ça, c'est anormal.
Oui, mais alors dans ces cas-là, ça pousse à un raisonnement libéral extrême qui va te pousser à dire, alors on arrête toutes les aides.
Non.
Et chacun se débrouille et doit aller travailler.
Mais il faut qu'il y ait une différence entre rester chez toi et aller au travail. Mais c'est pas normal, c'est un vrai
si
problème.
Si vous me permettez, il y a deux sujets différents, alors vous allez dire qu'ils sont liés.
Rapidement, Julien.
C'est le premier, lutter contre la pauvreté, le deuxième, c'est lutter contre l'inflation. C'est pas exactement la même chose.
D'accord.
L'inflation a certes un impact disproportionné sur les moins aisés, mais vous avez un ensemble de prestations qui sont là pour tenter de vous faire sortir de la pauvreté, mais ça marche pas très bien, même si les liens avec le travail sont compliqués. Et il y a un deuxième sujet, qui est de savoir comment on adapte l'ensemble des prestations et des salaires à l'inflation. Et si on ne fait, pour lutter contre l'inflation, qu'ajouter des petites prestations ponctuelles au système de prestations, ça ne peut pas marcher, ça donne ce système brinque-brallant. Le gros sujet, celui de l'indexation.
On est avec Jean-Baptiste Beau, c'est notre invité sur ce sujet. Il est directeur des relations institutionnelles de l'association Famille Rurale. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi.
Merci
alors,
à vous.
On ne remet pas en cause, bien sûr, cette aide aux 9 millions de Français les plus démunis. Mais quand même, on se pose des questions sur ce chèque alimentaire. Parce que je me souviens de vous avoir interviewé il n'y a pas longtemps là-dessus. Vous me disiez que c'était formidable. Mais enfin, là, ce chèque alimentaire, il va servir à tout sauf à acheter des haricots verts en fait.
Oui, non, mais j'avais dit que c'était formidable. Alors, il faut bien savoir que, en fait, la question du chèque alimentaire, ça fait déjà depuis 2 ans qu'elle est posée. Et le gouvernement, en fait, devait s'engager à avoir un vrai dispositif ciblé qui visait, en fait, à avoir une alimentation, de qualité qui soit accessible à tous. Ça, c'était le vrai objectif. Ensuite, là, on est dans la période d'inflation. Et là, on nous a annoncé, juste avant les élections, en fait, un chèque qui serait versé seulement en une fois, effectivement, aux foyers les plus aisés. Mais moi, je rejoins ce qui a été dit un petit peu avant. C'est que là, on empile un peu des dispositifs ponctuels, alors qu'ils sont utiles. Certes, les familles qui vont recevoir ce chèque, ça va être utile pour elles. On sait qu'en un an, le recours à l'aide alimentaire a augmenté de 10%. Les crédits à la consommation sont en train d'exploser. L'inflation, l'alimentation, on est sur 5 à 6% d'augmentation. Mais ça traitera pas le problème de fond puisque en fait au final le mois suivant comment est-ce que ces familles vont faire
ça les aidera pas à manger mieux.
Sur un one shot comme ça, non, ça répond pas du tout à cet objectif. C'est pour ça que nous, ce qu'on avait proposé, c'est ce que faisait aussi la Convention citoyenne pour le climat, c'est qu'on ait un véritable chèque qui soit ciblé sur les produits qui respectent le plan national de nutrition santé.
Oui.
Et c'est possible à faire. Ça a été dit encore une fois par tout à l'heure, avec un système comme les tickets restaurants.
Exactement.
Et là, on est dans une efficacité. Parce qu'on pourra avoir un ciblage. Et nous, ce qu'on avait évalué, parce qu'on a des observatoires de prix, pour s'alimenter, on va dire, premier prix, mais quand même en respectant plus ou moins le PNNS, il faut au minimum compter entre 120 et 250 euros par personne. 120, c'est vraiment le plus bas.
Oui, donc de toute façon, il n'est pas suffisant.
Non, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que nous, ce qu'on propose, ce qu'on a proposé, et c'était en discussion, et le gouvernement n'a fait que reculer pour au final annoncer cette aide ponctuelle, c'est d'avoir un chèque soit plutôt de 60 euros par personne et par mois, et là, avec un ciblage, et là, on sera dans une efficacité, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une véritable politique sur l'alimentation.
Bah oui, que les Français se nourrissent mieux.
De l'inflation. Bah oui, parce que vous savez combien on dépense par an pour lutter contre le diabète et les maladies cardiovasculaires, 24 milliards d'euros.
Mais je sais.
Donc voilà, c'est pour ça que ce type de mesure aurait une efficacité. Donc il faut avoir un raisonnement, en tout cas qui soit plus poussé sur la question. Et pour le reste, évidemment, dans cette période, les dépenses contraintes ont énormément augmenté ces dernières années, notamment aussi en raison du logement. Mais aujourd'hui, avec l'inflation, il y a énormément de gens qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Mais là, dans ce qui est proposé, on est dans une aide comme on a eu à la fin.
Oui, comme le chèque inflation, le chèque énergie et tout.
C'est un chèque inflation bis, mais on pourrait avoir
c'est tout sauf un chèque alimentaire. Et c'est un peu dommage qu'on ait laissé tomber l'idée qui était soutenue par Famille Rurale sur un chèque ciblé.
C'est encore en réflexion. Ça viendra peut-être s'ajouter.
Ça a été renvoyé à plus tard. C'est la même histoire sur le carburant. Parce que là, on a une réduction pour tout le monde sans distinction. Mmh. Alors que nous, par exemple, on sait par exemple que nous, en milieu rural, on a des familles qui sont obligées de prendre leur voiture.
Il y a une différence. Jean-Baptiste, il y a une différence, c'est que là, on est sûr que ça sert à l'essence. Mmh. C'est-à-dire que là, au moins, c'est pas ciblé. Et ça, c'est peut-être un problème.
Quelqu'un qui pourrait prendre les transports en commun.
Oui, je suis d'accord.
C'est un mauvais ciblage.
C'est possible. Et sur le chèque alimentaire, il y a un mauvais ciblage. Merci Jean-Baptiste Beau d'avoir été avec nous. Rapidement, Robert.
La crise, elle est évolutive. Là, la ponctualité, si vous voulez, de l'aide, elle est très dangereuse parce que ça va tenir un mois. Qu'est-ce qui va passer en septembre? On va faire des chèques tous les 2-3 mois. C'est pas possible. Il y a une impossibilité. Alors, est-ce qu'il faut pas peut-être diviser et donner d'une manière pendant plusieurs mois des sommes beaucoup moins importantes? Mais c'est pas tenable. Au bout d'un mois, c'est terminé.
Ou un vrai chèque alimentaire.
Et on sait que cette inflation ne peut qu'aller en augmentant pendant un moment. Donc c'est vraiment quelque chose. On répond pas d'une manière structurelle, on répond d'une manière comme ça, ponctuelle, one shot, et c'est extrêmement dangereux.
Rémi, vous avez plein de messages sur le sujet.
De nombreux messages. Il y a notamment de nombreux messages qui reviennent sur le même thème, c'est-à-dire que c'est ceux qui se plaignent d'être juste
au-dessus
ce type d'aide. Il y a par exemple Damien qui nous dit n'oublions pas que ceux qui sont juste au-dessus du seuil de pauvreté et ne toucheront pas d'aide, mais ils subissent quand même l'inflation et ce sont les consommateurs. Ils vont renier sur certaines dépenses qui vont engendrer beaucoup de chômage. Je suis dans cette classe.
Et c'est eux qui vont passer dans le camp des plus démunis.
Je ne donne plus d'argent.
Oui, c'est pas l'allocation de rentrée non plus.
Voilà. Lui nous dit je suis dans cette classe. Je ne donne plus d'argent aux entreprises de loisirs. Ces entreprises de loisirs ont beaucoup de salariés au SMIC qu'on aide aujourd'hui. Demain, ils seront chômeurs.
C'est l'éternel débat sur l'effet de seuil. En tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce que ce chèque alimentaire, c'est l'aide de trop, Rémi?
C'est oui. Ça revient très régulièrement. À chaque fois qu'on a abordé ce thème des aides, parce que c'est pas le premier chèque.
C'est pas le premier.
Et c'est oui, c'est l'aide de trop pour 68% de ceux qui ont voté sur les.
Je comprends pas la réponse. C'est l'aide de trop, ça. Ils veulent pas d'aide.
Ça suffit.
Ils veulent pas d'aide alors.
Non, ce n'est plus possible, parce qu'on vient d'en débattre, de faire des aides comme ça, à tout va, et de cette manière-là.
Il faut mieux les cibler.
RMC, football. Samedi 4 mai à 15h, au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, le 4 mai à Montpellier, avec RMC.